Le Théâtre La 16e rouvre ses portes pour la saison 2021-2022. Pour cette raison, on vous invite en coulisses pour écouter des rencontres inédites avec les artistes des spectacles qui arpenteront nos scènes tout au long de l'année. En coulisses, le podcast du Théâtre La 16e, ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de En coulisses. Grâce à ses nombreux projets depuis son arrivée de Belgique à Vancouver en 2016, mon invité d'aujourd'hui a pu se démarquer comme étant une artiste d'envergure. Elle a travaillé avec diverses compagnies, dont Vortex Theatre, Presentation House ou encore La Pire Espèce. L'année dernière, elle a présenté une adaptation de L'Amant de Marguerite Duras pour le Centre culturel francophone et en mars 2020, elle a fondé la Kleine Compagnie, lui permettant de développer des projets de théâtre intimistes et poétiques s'inspirant du théâtre d'objets. Avec la compagnie, elle crée Clémentine qui sera présentée à Presentation House en février 2022 ou encore Petite Sirène, un projet qui a fait partie des micro-résidences du Théâtre La 16e en juin dernier. Diplômée en jeu et détentrice d'un master en études théâtrales, l'artiste devant moi est comédienne, créatrice, marionnettiste, animatrice et autrice, rien que ça. Et c'est dans le cadre de cette dernière fonction que nous recevons notre invitée, fréquente collaboratrice du Théâtre La 16e. Sa dernière pièce, La Befana, bénéficie du programme de développement dramaturgique de la compagnie. Et je suis très heureux d'accueillir Anaïs Pelin. Bonjour Anaïs.
Bonjour Corrie.
Bon, ça en fait des choses, on te verra aussi dans le merveilleux voyage d'Inès de l'Ouest plus tard cette saison. Quel est le moteur de ta pratique artistique? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'allume?
Alors, la chose la plus importante pour moi, c'est raconter des histoires. C'est vraiment comment on construit des histoires ensemble dans une équipe. Comme tu l'as dit, moi, j'aime bien toucher à plusieurs techniques. J'aime bien l'écriture de plateau, l'écriture scénique, voir comment avec les interprètes on arrive justement à comment on raconte cette histoire ensemble, si on part d'une histoire qui existe déjà ou bien si on part d'un thème, si on part d'une idée, ben, voir comment on peut développer ça. Ou bien par l'écriture, ben, c'est quelque chose, ça c'est une activité plus solitaire, mais je réalise aussi à quel point j'aime la collaboration avec une équipe, même autour d'un texte, de voir comment, avec les mots, les acteurs s'emparent du texte et puis rendent ça vivant.
Et tu parles de l'inspiration que tu as parfois des histoires. Tu aimes souvent t'inspirer des contes ou du folklore. Tu le fais pour la Befana. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de réimaginer ces histoires à ta façon?
Mais je pense que c'est important de voir toujours une histoire, tiens, en quoi elle résonne aujourd'hui, comment je peux toucher justement l'audience, le public. Quand on raconte des histoires, évidemment, c'est raconter des histoires pour les autres aussi, pour soi-même. Je pense que c'est important. Je pense qu'on est toujours son premier public. Mais après, c'est comment on va toucher un public plus large que juste soi-même. Et pour moi, c'est voir comment ces histoires peuvent résonner encore aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'elles résonnent encore aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont leur place aujourd'hui sur nos scènes? Est-ce qu'elles parlent au public? Et si oui, comment on les adapte? Comment on se les approprie aussi selon ce qu'on vit en ce moment, le temps présent? Après, je pense qu'il y a toujours des grands thèmes universels. Mais notre audience évolue, les publics évoluent, et donc il faut aussi penser, comment cette histoire qui m'intéresse moi, je peux la partager aux autres pour que ça intéresse justement une plus grande audience.
Et justement, la Befana, le texte dont tu es en train d'écrire pour la 16e, ça appartient aux figures folkloriques de la nativité. C'est l'histoire, la légende dit que la Befana, souvent une vieille femme volante sur son balai qui passe dans les maisons où vivent les enfants la nuit précédant l'épiphanie. Ça vient d'où pour toi cette idée d'adapter ça pour le théâtre? Et du coup, comment est-ce que ça résonne pour toi aujourd'hui, et comment tu t'appropries cette histoire-là?
En fait, c'est lié à une histoire familiale. Mon grand-père est italien, est immigré italien, il vient de l'Italie, du nord de l'Italie, la région de Vénétie. Mais en voulant, étant immigré en Belgique, il voulait vraiment s'adapter. Donc, il a vraiment rejeté tout ce qui avait attrait à l'Italie. C'est quelque chose qu'il n'a pas transmis à mon père, puis qui ne nous a pas été transmis non plus. Mais à la fin de sa vie, par contre, il recommençait à reparler d'Italie. C'est la première fois que je l'entendais parler en italien. Et comme il avait en fait un cancer du cerveau, il n'avait plus tout à fait l'aspect du temps. Et un soir, il a appelé ma grand-mère, parce que c'était ma tante qui prenait soin de lui, et il lui a demandé est-ce que la Befana est passée. Parce que quand il était petit, il connaissait cette histoire, un peu comme le Père Noël ici, où nous, on a Saint-Nicolas en Belgique. Et j'ai trouvé cette image très belle d'un vieux monsieur sur son lit de mort qui appelle sa femme en demandant est-ce que la Befana est passée. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce personnage folklorique, puis qui est intéressant parce que le Père Noël, c'est un homme, Saint-Nicolas, c'est un homme, là, c'est une femme, ça renoue aussi avec les croyances païennes, ben, des déesses et tout ça, du retour justement, ben, aujourd'hui on est le solstice d'hiver, ben, c'est un peu ça, c'est un peu ce passage-là, le retour de la lumière et tout ça. Et comment ben, cette femme, ça pouvait être aussi l'annonce de la mort, mais qui finalement fait partie du cycle de la vie, comme voilà, il y a le retour de la lumière, ben, après la mort, il y a la vie. Et c'est sur cet aspect-là que je me suis intéressée à cette légende.
Ton théâtre est un théâtre, tu le dis, sur tes bios, autant pour les grands que pour les petits. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le jeune public?
Le jeune public, c'est un public super intéressant parce que c'est un public captif, c'est-à-dire les enfants, beaucoup dans les situations scolaires et puis même les situations familiales, ils n'ont pas spécialement choisi d'être au théâtre. Mais donc, ça fait aussi une grosse mixité sociale, c'est-à-dire on va avoir des enfants qui ont peut-être vraiment l'habitude d'aller au théâtre, qui vont souvent, qui aiment ça, puis des enfants, ça va peut-être être la première fois qu'ils y vont. Et donc, c'est un public quand même assez exigeant parce qu'ils vont montrer s'ils n'ont pas tous les codes et donc ils vont montrer s'ils aiment pas. Ils sont moins prudes des fois qu'un public adulte. Et pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et surtout, ils vont tout de suite poser les bonnes questions. Ils vont tout de suite avoir une réflexion par rapport à l'histoire. Ils vont tout de suite voir quand ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment un public très intéressant et aussi parce qu'il est très, très diversifié.
Et c'est intéressant ce que tu dis, cette immédiateté dans leur réponse par rapport à ce que tu as créé ou ce que tu as écrit. Comment est-ce qu'on sculpte un texte pour jeune public sans avoir ce retour immédiat pendant l'écriture? Comment est-ce qu'on anticipe, on envisage un peu ces réponses-là ou comment est-ce qu'on arrive à semer des pistes pour s'assurer que les élèves vont répondre de cette façon-là?
Mais je pense que ce qui est important, c'est d'être toujours en interaction avec ce public, même si, ben comme tu disais, quand j'écris, ben, je ne suis pas constamment entourée d'enfants, mais de justement avoir eu assez d'interactions avec ce public-là, à travers des ateliers, à travers d'autres projets, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, quel sujet les intéresse. Moi, je pense que les enfants sont très, très intelligents et qu'en fait, ils sont intéressés par les mêmes sujets que les adultes et que finalement, des bons spectacles jeunesse, c'est souvent des spectacles que l'enfant et le professeur qui l'accompagne ou la grand-mère ou la maman ou le grand-père ou le papa va aimer aussi. Il va prendre du plaisir à partager ce spectacle avec son enfant ou son élève.
Depuis 2001, le Théâtre La Seizième mène activement un programme de développement dramaturgique. Dans le cadre de ce programme, le théâtre commande des œuvres à des auteurs établis ou de la relève, puis les accompagne durant leur travail d'écriture pour enfin produire la pièce au courant des saisons suivantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment cette collaboration avec la 16e est venue?
Alors, en fait, c'est en 2019, si je ne me trompe pas. Esther Duquette, qui était au théâtre de la 16e, qui est juste en congé de maternité, avait déjà accompagné plusieurs étapes du spectacle Clémentine. Et elle m'a proposé alors de travailler sur un texte et de ne pas partir justement. Mes autres projets, c'était vraiment de l'écriture de plateau. Donc, on créait le texte en salle durant les répétitions. Et là, elle m'a proposé de lui proposer un projet d'écriture qui soit vraiment juste de l'écriture, pas de l'écriture de plateau. Et donc, moi, j'avais cette idée depuis longtemps de cette histoire par rapport à la Befana, de la transmission entre des générations. Donc, là, c'est une grand-mère. J'ai transposé mon histoire personnelle du grand-père avec une grand-mère qui transmet la légende de la Befana à sa petite-fille. Et puis la petite-fille, ben, à un moment, sa grand-mère disparaît. Puis elle va partir à la recherche de sa grand-mère, voir où elle se cache. Et donc, c'est comme ça, j'ai proposé le projet à Esther. Et puis, petit à petit, on a commencé à travailler sur le projet. Et j'ai été accompagnée par un coach dramaturgique, Pascal Brulmans, qui est un auteur québécois. Et donc, maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce texte.
Et justement, tu peux nous parler un peu de ce processus avec ton dramaturge, Pascal Brulmans. C'est quoi un dramaturge pour toi, en tout cas, et qu'est-ce qui t'apporte comme soutien pendant ta période d'écriture?
Et alors, avec Pascal, Pascal, c'est particulier. Je pense que ça dépend évidemment à quelle étape de son parcours d'auteur la personne qui demande un accompagnement. Moi, c'était mon premier texte, donc évidemment, il y a eu beaucoup de choses aussi, des fois juste des petits réajustements techniques par rapport à de la typographie ou comment mettre le texte en page. Mais ce qui se passe, c'est que Pascal était surtout là pour me poser des questions par rapport à ce que j'écrivais, pour voir, tiens, est-ce que ce que j'écrivais suivait l'idée du texte, les grands thèmes du texte. Et puis, on a beaucoup travaillé, de plus en plus, en fait, on a travaillé dans le détail, on a travaillé sur les dynamiques entre les personnages, tiens, comment cet univers, parce que finalement, on rentre dans un univers fantastique, dans la Befana, et comment cet univers pouvait se tenir au théâtre et dans une pièce pour jeune public qui dure 1 heure.
Et je voulais juste retourner sur un point que tu as mentionné tout à l'heure, la différence entre un travail de création de plateau, d'écriture scénique et de l'écriture seule, on va dire, vraiment écrire une pièce. C'est quoi pour toi la grosse différence entre les deux? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses face à ça? Est-ce que l'un apporte à l'autre, l'écriture scénique versus l'écriture seule?
Mais ça a été un peu une révélation. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça aussi vraiment, juste pendant des fois 1 heure, juste penser, tiens, j'ai cette image-là en tête, comment je l'écris, comment je la traduis en mots. Des fois, c'est juste ça. Il y a un côté, tout un travail poétique qui est super intéressant. Et pour moi, il y a quand même un parallèle, effectivement, comme tu l'évoquais, avec l'écriture de plateau, parce que l'écriture de plateau, c'est, tiens, comment cette image poétique, comment on va l'écrire tous ensemble avec l'équipe. Mais en même temps, quand tu écris un texte tout seul, de toute façon, tu vas être confronté à un moment, enfin, il va y avoir la confrontation avec les comédiens, l'équipe et tout ça. Et donc, tu sais que tu dois laisser de la place aussi. Moi, ça a été tout un travail aussi de voir comment je laisse la place. Est-ce que ça, c'est de l'écriture ou est-ce que c'est de la mise en scène? Et là, moi, je dois me retirer en tant qu'autrice et puis laisser la place pour ce qui pourrait être l'interprétation d'une metteuse en scène. Et des comédiens aussi. de pas faire, de pas imposer quelque chose par rapport à ce texte-là non plus.
Tu travailles souvent, assez souvent avec du théâtre d'objets ou des marionnettes. Qu'est-ce que cet art à part entière ajoute au théâtre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des marionnettes ou des objets qu'on ne peut pas faire avec un texte, on va dire, traditionnel, sans ces matériaux-là?
Il y a deux choses, hein, théâtre d'objets puis théâtre de marionnettes. Avec le théâtre d'objets, ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'on peut reproduire des choses qui, des fois, sont difficilement reproduisibles sur scène. Grâce justement aux objets miniatures, ben, on peut recréer tout un décor proche d'un décor de film, mais en même temps, ça ne va jamais être non plus complètement complet, parce que voilà, on n'est pas au cinéma. Et donc, ça demande aussi, c'est comme un théâtre à trous, parce qu'il va toujours manquer un élément, et c'est un peu le but du théâtre, hein, mais on va toujours faire appel à l'imaginaire du spectateur pour nous aider justement à combler ces trous. Ce que je trouve intéressant aussi dans le théâtre d'objets et aussi dans le théâtre de marionnettes, c'est, tiens, qu'est-ce qu'un objet inanimé peut amener comme poésie sur scène? Comment tout d'un coup, on peut le faire vivre et puis on peut lui donner des émotions? Un exemple très, très simple, c'est on fait un spectacle de marionnettes, puis des enfants ou même des adultes, des fois, pensent que l'expression de la marionnette a changé. Mais en fait, c'est juste l'interprétation ou la manière de le manipuler du marionnettiste qui fait ça. Mais on veut y croire. Il y a comme ça, l'imagination prend vraiment, vraiment de la place. Et c'est quelque chose que je trouve très beau.
En 2017, tu as gagné le prix de la Fondation de l'Association des théâtres francophones du Canada pour travailler sur Clémentine, une autre création de ta compagnie. En 2019, le prix du Centre des écritures dramatiques Wallonie-Bruxelles pour la Befana, justement. Le programme de développement dramaturgique à la 16e comprend aussi du soutien financier et dramaturgique. Qu'est-ce que ça représente, ce soutien pour une artiste, comme toi? Surtout et spécialement, je dirais, après une année de pandémie, peut-être, potentiellement.
Mais ça a été vraiment... Ça a vraiment amené comme une soupape un peu je dirais une soupape de liberté créatrice, entre guillemets. Du fait que, ben oui, d'être payé, de recevoir de l'argent pour pouvoir écrire, ben ça permet qu'on puisse vraiment se consacrer qu'à ça. Et c'est Pascal Brûlemont, justement, qui me disait souvent ça, à quel point l'écriture est très, 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 très exigeante. Et puis, elle est très demandante aussi. C'est difficile de partager son temps quand on est dans la création, de manière générale, en fait. C'est très difficile de, oui, j'ai un boulot à côté, puis je dois aussi après écrire le soir et tout ça, c'est pas impossible. La plupart des artistes le font, d'ailleurs. Mais d'avoir la possibilité, justement, d'avoir ces périodes où je ne fais que ça, que travailler sur un projet, c'est vraiment très important, en fait. Et je pense que, en tout cas, il faut privilégier ça le plus possible. Et c'est les opportunités que donne la 16e ou les opportunités, justement, des prix de la ITFC et du Centre d'écriture dramatique Wallonie-Bruxelles, c'est vraiment très important pour les artistes et, je dirais, encore plus pour les artistes de la francophonie canadienne.
Justement, tu travailles sur cette pièce depuis maintenant plusieurs années. C'est un cycle qui est assez long. Le cycle du programme à la 16e est de 2 ans, d'habitude. Il s'est étiré à cause de la pandémie. Est-ce qu'on revient dans le processus ou à quoi revient-on dans le processus après un temps de pause ou un temps de changement? Est-ce que tu as envie d'amener autre chose? Est-ce que tu as envie de clarifier ta vision de la pièce maintenant que tu as eu un peu plus de recul? Comment ça se passe, cet étirement-là de la longévité?
Mais je pense que c'est important des fois justement de laisser un peu poser un texte, de vraiment prendre du recul, parce que des fois, il y a aussi une fatigue qui arrive dans les processus de création. Et puis, on n'a plus de recul par rapport à ce qu'on crée. Et le fait, justement, d'avoir eu un temps de pause, ben, ça m'a vraiment permis d'avoir un nouveau regard et puis aussi d'avoir une équipe, des comédiens et tout ça pour lire le texte. Ça fait une énorme différence parce que tout d'un coup, il y a des gens qui interprètent les mots écrits sur la page d'une certaine manière. Et c'est intéressant de voir, tiens, c'est quoi le premier instinct des comédiens ou de, là c'était la metteuse en scène, Émilie Leclerc, de voir, tiens, comment eux, ils voient le texte. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et quelque chose qui nous est paru très, très clairement, et tu parlais justement de, tiens, comment on fait du jeune public en n'ayant pas le jeune public là, c'est qu'on s'est dit, tiens, la prochaine étape maintenant, c'est de faire un travail avec un partenariat avec une école ou quelque chose comme ça, pour faire en tout cas au moins une lecture publique avant la production.
Oui, comme tu viens de dire, on vient d'achever une étape de travail de la Befana. La production du texte va se faire dans quelques saisons, malheureusement, avec la pandémie qui a un peu repoussé tout ce qu'on avait prévu. Donc, le cycle de ce travail va bientôt être clos. Est-ce que tu as, vers quoi tu t'enlignes prochainement? Est-ce que tu as une envie de faire du théâtre sur toi-même un petit peu, de ne pas rester dans l'idée des contes ou de l'adaptation des contes, mais de te mettre un peu plus à nu dans ton travail?
Dans Clémentine, je me mets déjà un petit peu à nu. Moi, j'ai l'impression que c'est difficile de ne pas partir de soi, en tout cas, quand on fait de l'art. Moi je pars, il y a toujours une partie où je pars de moi, même si après, je vais dans la fiction. Même quand je m'en pars... d'un texte, j'ai travaillé là récemment sur La Petite Sirène et je vais toujours voir, tiens, en quoi ce texte-là résonne pour moi aujourd'hui avec moi, ce que j'ai vécu et qu'est-ce que de mon expérience personnelle, qu'est-ce qui pourrait résonner avec les autres aussi par rapport à cette histoire-là. Donc j'ai l'impression que de toute façon, je vais toujours un peu dans le vécu, mais ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que oui, il y a une part de moi qui est là, ok, est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas justement, tiens, d'aller voir, je travaille beaucoup dans le jeune public pour le moment, mon public cible, c'est souvent les 7-10 ans, mais peut-être d'aller voir, tiens, qu'est-ce que c'est de faire du théâtre pour ados, qu'est-ce que c'est de faire du théâtre pour les tout-petits, puis toujours, ça m'intéresse toujours d'aller évidemment dans le théâtre pour adultes aussi. Mais voir comment essayer de casser une habitude que j'ai de peut-être justement aller vers le conte et tout ça et aller totalement ailleurs juste pour moi aussi me challenger.
En attendant tes prochaines créations, vous pouvez aller sur le site de la 16e, www.16e.ca. Vous pouvez suivre le développement de nos artistes en résidence, dont la Befana d'Anaïs Pelin. Et Anaïs sera dans la distribution de notre tournée Jeune Public, Le Merveilleux Voyage d'Inès de l'Ouest, ce printemps, si tout se passe bien. Merci beaucoup, Anaïs.
Merci.
Et à très bientôt sur En Coulisses.